Imaginez-vous, ça fait déjà 20 ans qu'il est présent à Narbonne, dans un lieu incontournable, en tout cas du Narbonne, du Narbonnais même au-delà. Il rayonne d'ailleurs un peu partout. Lionel Giraud est avec nous. Bonjour, Adicias.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, Lionel Giraud, on le rappelle, chef 2 étoiles de la Maison Saint-Crescent. Ça fait 20 ans que donc, vous avez repris ce lieu. Déjà, bon anniversaire.
Ouais, c'est gentil, merci.
Vous l'avez fêté dignement, j'espère ?
Pas trop, non. C'était un jour, c'était le samedi, je crois, le 1er avril. Donc, au boulot, quoi, comme d'habitude, comme grand nombre des anniversaires qu'on a pu vivre, mais ça va, c'est dans la continuité.
Ouais. Alors, on va peut-être rappeler Lionel Giraud, d'où c'est qu'il vient, quel background il a avant de parler de la table maison Saint-Crescent.
Bon, déjà, je suis enfant narbonnais, hein, je suis né à Narbonne, donc là-dessus, aucun doute. Puis, quelques années de pensionnat à Sorèze, à l'école royale militaire de Sorèze, à Castelnaudary-Revel, vers l'âge de 11 ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur mon lycée hôtelier, qui était à Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère. Voilà, école du Sacré-Cœur. Voilà, puis de là, après, bourlinguer un peu sur Paris, 4 ans, puis à Grasse, puis chez Jacques Chibois, puis Michel Guérard dans les Landes, et Lousteau de Beaumanière avec Jean-André Charial. Voilà, un petit peu, ça c'est
pas mal bougé quand même.
Oui, bah, 10 années pour forger un peu son caractère, pour forger un peu son organisation cuisine, on va dire, découvrir un peu ce qui se fait dans les autres régions, essayer de comprendre comment fonctionne notre métier, quoi.
Qu'est-ce qui a marqué le jeune Lionel Giraud, justement, dans ces années d'apprentissage?
On va dire que c'était pas des années bisounours, comme je le dis souvent. C'est que voilà, bah, c'était 6 heures du matin, minuit non-stop, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de pression, avec un management un peu à l'ancienne, voire même vraiment à l'ancienne. Donc voilà.
On crie dessus.
Oui, bien sûr. Il y avait des cris, même parfois des gestes, des mains. Enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mais disons que ça a été Je fais partie d'une génération où quand il y avait 10 entrants, s'il en restait un à la fin du mois, c'était bien, quoi.
Quand même, d'accord.
Ça veut dire que c'était le plus courageux.
Ouais. Voilà. Ou le plus fou.
Ou le plus tenace, quoi. Et je pense que voilà. Il y a eu grand nombre de maisons comme ça que j'ai fréquentées où il fallait être costaud, quoi.
Comment alors du coup c'est construit justement la spécificité de la touche Lionel Giraud? Est-ce que c'est construit pendant ces années-là ou c'est arrivé
non
après?
C'est arrivé bien plus tard. Dans ces années-là on est formaté à concevoir la cuisine d'un autre. Donc, vous faites des autres en tout cas. Et donc, on est à l'exécutif, donc on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on aimerait mettre en œuvre. Et puis, au fil des années, après, les choses se tassent et puis on fait un peu table rase du passé parce que ce n'est pas un métier statique, on est tout le temps en recherche, en évolution et en développement. Donc, forcément, on s'ennuie très vite autour des choses qu'on a déjà faites. Et puis, on va explorer de nouvelles voies, de nouvelles pistes. Donc, on se construit. Une cuisine, on se construit un état d'esprit, une philosophie. Parce que l'artisanat, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on défait et on refait la copie un milliard de fois. Donc on s'arrête sur des choses qui vont nous toucher à un moment donné et puis qui vont plus nous parler 6 mois plus tard et on va passer à autre chose. Donc c'est un cheminement, c'est une construction qui a fait que j'en suis là aujourd'hui et j'en serai sûrement autre part demain. Donc
Qu'est-ce qui a fait justement, en parlant de faire des fers, qu'à un moment donné vous vous êtes dit, on vous a connu pour ça au début justement, pour la cuisine moléculaire. Qu'est-ce qui a fait que je vais me lancer là-dedans et puis je passe à autre chose?
Non, mais c'est des périodes, je veux dire, c'est comme dans tous travaux, j'ai pas aimé toutes les peintures de Van Gogh ou encore moins celles de Picasso, je veux dire ils ont des périodes qui sont qui correspondent plus à des personnes ou d'autres périodes qui correspondent à d'autres personnes. Voilà, la construction d'une œuvre, elle est permanente, donc oui, j'ai exploré un peu ce terrain, mais pour plein de raisons. Déjà parce que c'était une période où il fallait que je me fasse un prénom, donc il fallait que je marque la différence. Donc marquer la différence, c'est aussi d'aller chercher des choses extravagantes pour qu'on parle de vous. Ça, c'était déjà un problème. Aujourd'hui, je vous en parle comme ça avec le recul. Hein. Sur l'instant, c'était même pas réfléchi, quoi. Je veux dire, j'avais envie de se différencier, de montrer qu'on était différent et qu'on pouvait aussi œuvrer sur d'autres pistes. Ensuite, il y a bien évidemment un souci économique, hein. Quand vous démarrez, que vous reprenez une entreprise en dépôt de bilan, que vous êtes dedans, que tous les matins on vous appelle pour savoir si vous avez déposé de l'argent à la banque plutôt que d'aller faire des courses pour pouvoir faire votre cuisine, bah, à un moment donné, vous trouvez des solutions. Et cette solution, elle est que dans la déstructuration, pardon, des produits, bah, avec un pigeon, on nourrit 6 personnes, quoi. Alors qu'en temps normal, avec un pigeon, si on en fait 2, c'est bien. Donc voilà, je veux dire, tout ça, c'était une construction qui était, voilà, un petit peu déjà pour choquer un peu les gens ou pour les déstabiliser, les amener sur mon terrain. Arriver à faire un modèle économique qui soit plus ou moins quand même viable, parce que faut pas oublier que sur ces périodes-là, j'avais pas une journée de repos et ça a été 5 ans bah, sans salaire, sans vacances et sans repos. Hein, donc c'est du 7-7, coûte 16 heures par jour. Bon, mais forcément, à un moment donné, il faut voir un peu la sortie du tunnel. Bon. Ce sont des sacrifices qui m'ont amené à faire d'autres choix après par la suite.
Mmh. Voilà. Et à un moment donné, est arrivée donc la première étoile.
Ouais, 2 ans plus tard, en 2005. Pareil, c'est. Bon, on peut dire qu'elle est un peu bien tombée dans l'absolu, y compris le soutien d'Hugo et Mio, qu'il ne faut pas oublier, fait partie quand même des guides, comme ici, hein, drapeau rouge, drapeau jaune. Voilà, on a aussi notre drapeau rouge et drapeau jaune. Mais disons que c'est tombé au moment où je baissais un peu les bras. Ouais. Voilà, au moment où c'était difficile.
Est-ce que c'était un peu cette fameuse lumière au bout du tunnel qui fait.
Ouais. Vous savez,
ça donne du baume au cœur.
Quand vous dormez fait. 4 heures par nuit, que vous êtes tout le temps à fond, qu'on se repose jamais, qu'à la sortie bah, ça va jamais, que les banques sont pas contentes, que, bah, voilà, quoi, que les clients bah, sont pas forcément au rendez-vous pour X raisons, parce que ça fume, parce que c'est moléculaire, ou tout simplement d'autres qui me le redemandent aujourd'hui. Ah, mais oh, on était venus il y a 15 ans, on faisait ça. Ouais, mais c'était il y a 15 ans, quoi. Et à un moment donné, il a fallu changer un peu le fusil d'épaule parce que. Il n'y avait plus ce lien. Moi, je dis toujours dans la vie, on défend ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend et on comprend que ce que l'on nous enseigne. La problématique de la cuisine moléculaire, entre guillemets, je dis moléculaire, en fait, elle est pratiquée chez tous les particuliers tout le temps en permanence. C'est-à-dire que dès le moment où on a mis la viande en cuisson, c'est-à-dire qu'on a arrêté de la manger crue, hein, comme les Cro-Magnons, on a déjà fait une transformation de molécules. Hein, on a fait une dénaturisation sarcoplasmique qui a contracté les molécules musculaires et de sang pour en faire quelque chose. Donc, la cuisine moléculaire, c'est un mot, on va dire, classificateur qui est pas vraiment représentatif de l'ensemble. De ce que peut représenter. Aujourd'hui, les gens vont faire leurs courses au supermarché, ils achètent des produits, il y a du E314. Bah, c'est une transformation de molécules pour la conservation.
Ça veut rien dire et tout dire à la fois.
Voilà, en fait, donc ça veut rien dire et tout dire. Donc il y avait cette espèce de, on va dire, de construction éphémère basée sur le spectaculaire qu'on pouvait avoir dans les assiettes, parce que ça fumait, parce que c'était beau, parce que voilà. Et indirectement, ça a aussi construit tout le process qui fait qu'aujourd'hui, on fait une cuisine moderne. Pas nous, hein, mais l'ensemble de la scène gastronomique française. Donc, elle a marqué les esprits dans les années 2000. Elle a transformé la scène gastronomique espagnole, elle a transformé la scène gastronomique portugaise, brésilienne, elle a transformé toutes les scènes gastronomiques. C'est-à-dire qu'en gros, elle n'était plus basée que sur un récital de cuisine escoffier, c'est-à-dire où il y avait des bases bien ancrées dans lesquelles il ne fallait jamais sortir. Si la brunoise, c'était 1 mm sur 1 mm, il ne fallait pas déroger. Mais si moi, j'avais envie de faire 2 mm, qu'est-ce qui m'en empêchait ? Aucune. Mais on se mettait ces barrières-là parce qu'on disait, non, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit respecter les choses. Et donc, finalement, l'ouverture de la cuisine moléculaire à l'échelle mondiale, elle a ouvert des voies à toute une génération de dire, mais en fait, la cuisine, elle n'est pas cantonnée qu'à un seul grimoire, quoi. Elle est libre d'expression. Et la cuisine moléculaire a amené cette liberté d'expression. Donc ça va au-delà que de juste ça fume et c'est super, c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'à travers ça, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient les process chimiques, scientifiques. En gros, c'est la science qui est rentrée dans nos assiettes et dans nos trucs. Vous savez, j'ai passé des périodes dans l'apprentissage qui étaient, on nous tapait dessus parce qu'à un moment donné, le jambon, il fallait le cuire dans la cocotte de fonte. Mais en fait, quand on cherche la raison de pourquoi on fallait le cuire dans la cocotte de fonte, c'est parce qu'en fait, dans les ménages, la ménagère, la mamie, qui a appris à la personne qui nous a appris par la suite, ou qui a transmis par la suite, en fait, c'était juste le récipient suffisamment grand pour recevoir le jambon dans la maison. Mais en fait, on peut le cuire dans une plaque à rôtir, on peut le cuire... ça changeait rien, strictement. Mais on se faisait cogner pour ça, parce qu'il fallait rester là-dedans. Les légumes verts, ça se cuit à l'anglaise dans l'eau salée. Mais pourquoi à l'anglaise Parce que c'est comme ça. C'était la réponse. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ok. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas l'eau salée qui donnait le vert qui conservait la chlorophylle, c'était en fait ne serait-ce que le CO2 qui est dans l'eau. Donc en fait, vous faites avec de l'eau gazeuse, c'est le même résultat. Vous mettez dans l'eau glacée, c'est le même résultat. Et en fait, voilà, la science nous a permis de comprendre ça. Les réactions, en fait, de chaque ingrédient. Et aujourd'hui, on s'en sert encore pour la connaissance. Donc finalement, c'était un chemin... voilà, ça a été un chemin comme un autre pour arriver à faire ce que nous faisons aujourd'hui.
Alors, on va en parler justement de ce qu'on fait aujourd'hui. On va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après.
Les Marseillais connaissent bien ce qui se fait avec la Nice pour les défier sur leur terrain, sans prétention et sans malice. C'est nous simples Toulousains qui allons vous donner gratis la recette clé en main de l'omelette au pastis. Un spécial défi aimablement balancé à Massilia Sound System. Joe Corbo, Gachampeg, Funky Family, Michel Corbin, Jean-Claude Izzo, et à tous les chanteurs, écrivains, historiens, journalistes et restaurateurs de Marseille.
L'omelette au pastis, c'est comme qui dirait la bouillabaisse ou la yoli, mais pour le dessert.
L'omelette au pastis, même les femmelettes en mangent comme le disent. L'omelette au pastis, miam 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 miam, un avant-goût du paradis. L'omelette au pastis, même les femmelettes en mangent comme le disent. L'omelette au pastis, miam 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 miam, un avant-goût du paradis.
Alors voilà maintenant la liste des ingrédients. Il vous faut avoir du beurre, de l'huile, du sucre, 6 œufs pour une petite omelette, du pastis bien sûr, et du piment de cayenne en poudre. Vous avez tout ça? Alors on y va. Mettez une noisette de beurre dans une poêle que quelques gouttes d'huile empêcheront de noircir. Sur le beurre, versez un peu de sucre qui caramélisera pendant que vous préparez les œufs. Voilà, maintenant, cassez vos 6 œufs dans un saladier et versez-y une cuillerée à soupe de pastis, ou 2 ou 3, mais faut pas exagérer. Et maintenant, battez, battez, battez les œufs. Allez-y, battez les œufs.
Battez, 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 battez les œufs. Vous l'aiguez les d'enfer, faut que ce soit leur top. Battez, 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 battez les œufs. Si tu sais pas le faire, fais le faire à ta meuf. Battez, 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 battez les œufs. Vous l'aiguez les d'enfer, faut que ce soit leur top. Battez, 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 battez les œufs. Si tu sais pas le faire, fais le faire à ta meuf.
Les œufs battus, la mine triste et les joues blêmes.
Les œufs battus, versez le tout dans une poêle chaude, puis avec une spatule en bois, vous rassemblez ce qui est cuit, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, pour faire comme un feuilleté. Alors, lorsqu'il ne reste qu'un peu d'œuf liquide, vous retournez pour faire cuire de l'autre côté. Et voilà.
Ah ouais, ouais, le maître, ça c'est certain, le maître pastis, mais tu rigoles. C'est une innovation, c'est...
L'omelette au pastis, même les femmelettes en mangent comme le disent. L'omelette au pastis, même les mamayams l'avant-goût du paradis. L'omelette au pastis, même les femmelettes en mangent comme le disent. L'omelette au pastis, même les mamayams l'avant-goût du paradis.
Un avant-goût du paradis, j'exagère, d'accord. Mais c'est bon.
Bientôt tu verras, hein, ça sera la mode à tous les restaurants du Vieux-Port. Hein.
Les touristes ils ne valeront que ça.
C'est-à-dire, moi je la mettrai un peu partout. Quoi. L'omelette au pastis, un peu avant, un peu pas dedans, un peu après. Quoi,
c'est... Hey, c'est les boulettes au pastis.
L'omelette au pastis, même les femmelettes en mangent comme le disent. L'omelette au pastis, même les mamayams en avant-goût du paradis. L'omelette au pastis, même les femmelettes en mangent comme le disent. L'omelette au pastis, yam 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 mayam en avant-goût du paradis. 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 Yam 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 mayam en avant-goût du paradis.
Merci docteur Cachou.
L'avant-goût du paradis.
C'est bon, le malheur, c'est que heureusement, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont compris, ils mettent du fenouil hein, dans les bouteilles de Ricard, quoi, parce que entre nous, ça ne vaut pas le pastis d'avant-guerre. Hein. Parce que le vrai pastis, il n'est pas jaune. Hein.
Putain,
le jaune, il est blanchâtre. Hein.
Mon père.
Oublier,
t'as ouais. Raison, mon père, il en
et puis ensuite,
mort.
on le boit calmement,
et
sous le soleil, là.
Et pendant la guerre.
Et tranquille, aussi.
Non, mais le pastis,
et pur, enfin, avec un peu d'eau, quoi. Comme de la sorte des fois, quoi.
Pendant la guerre. Ouais, ouais. Et il le fabrique même, le pastis.
Attends, mais là, mais, tu me fais le truc.
Ah, ouais, d'accord.
Avec la bimolette, on s'amuse jamais.
Voilà, de retour dans les studios de Radio Languedoc, toujours avec le chef Lionel Giraud de la Maison Saint-Crescent à Narbonne. On parlait de, j'allais dire, du passé, en tout cas de ce qui se faisait début des années 2000, un petit peu sur la cuisine moléculaire et comment ça construit la cuisine actuelle, la cuisine moderne, contemporaine. Alors justement, il y a eu cette évolution aussi dans ce que vous faites, chef. Vous disiez, vous faisiez cuisine moléculaire, maintenant c'est différent. Comment vous expliqueriez aux gens qui n'ont jamais été encore à la Maison Saint-Crescent et qui vous expliquent qu'est-ce que vous faites?
Disons que la transformation alimentaire, elle est toujours un peu compliquée. Donc sur l'ère moléculaire, on va dire, on était dans la recherche de spectacles, on était dans la recherche d'extravagance, de sortir un petit peu du carcan quotidien. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Dites-moi, presque cuisine expérimentale, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez, la cuisine évolue avec les chocs de société. Voilà, quand c'est les périodes de récession, entre guillemets, ben, la cuisine s'adapte et ainsi de suite. Aujourd'hui, le consommateur a besoin d'être rassuré, a besoin de retrouver des valeurs, on va dire, émotionnelles, basées sur les souvenirs d'enfance, basées sur des choses rassurantes, en fait. Et ce qui n'exclut pas, attention, la notion de terroir. On peut faire une cuisine extravagante, une cuisine basée sur la chimie, avec des produits de terroir. Ça ne change pas la structure. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que nous, bien sûr, on est en circuit très court, et dans un, j'appelle ça mon cercle vertueux, dans l'absolu, où on va travailler uniquement que les produits de l'Occitanie, et plus proche de nous, mieux c'est, mais dans laquelle on s'est créé une forme d'autonomie, qu'elle soit sur le céréal, qu'elle soit sur l'ensemble du vivant, en fait, tout simplement. Et pour le résumer,
Même d'ailleurs, les fleurs, je me rappelle, moi, avoir goûté des fleurs chez vous, incroyable.
Vous savez, tout ce qui est dans les astéracées, ce qu'on appelle donc les graminées, les fleurs, les feuilles, elles ont un lien avec la nature qui est déjà, bien sûr, très très poussée, mais ça va au-delà de ça. Il ne faut pas oublier que c'est les ancêtres de notre médecine, hein, de nos médicaments. Et à travers ça aussi, c'est un petit peu les curseurs de saisonnalité qu'on peut avoir sur les feuilles sauvages, les fleurs. Le graminé est très positif pour notre santé. On va tomber des fois sur des feuilles comme l'eau qui est mille feuilles, qui est le pansement de la nature, mais qui est aussi un très bon pansement pour nos intestins. Si on a certaines lésions, ça peut aussi contribuer à nous réparer. On va avoir l'oxalis qui va désintoxiquer le foie. On va avoir, voilà. Il y a plein d'herbes comme ça qui nous amènent de l'équilibre, en fait, et donc qui fait partie de l'alimentation. C'est tout simplement, à un moment donné, on les a bannis parce que, on est, après être des cueilleurs, ramasseurs, on est devenus des chasseurs et on s'est dit, ouais, la viande, c'est bon. Mais voilà, en fait, tout est bon dans la nature et c'est intéressant de la remettre sur le devant de la scène, quoi.
Que les produits de chez nous, que les produits de saison aussi, important.
Ça va sans dire. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité, en fait. Quand on fait la cuisine de l'instant, la cuisine du moment, on est obligé. Les anciens, c'était très simple, hein, quand ils partaient faire les courses le matin, qu'est-ce qui se passait? Ils allaient au marché et en fait, ils faisaient avec ce que les paysans avaient ramené sur le marché. Donc la nature, on se posait même pas la question de savoir si c'était de saison ou pas. Est arrivé un peu avant les années 2000 et puis donc toute cette période ère moléculaire et ainsi de suite, c'est arrivé cette notion de dire ouais, la grande classe en fait de l'alimentation, c'est d'importer tout ce qui vient de l'autre bout de la planète. Donc si j'ai envie de manger des cerises en décembre, je vais manger des cerises en décembre parce que je peux les trouver. Et donc, alors, on va dire que c'était, encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'adaptation de la cuisine avec les chocs de la société, mais on venait de rentrer dans la mondialisation, quoi. Donc à partir de là, on vient de rentrer dans la mondialisation, super, mais qu'est-ce qui se fait en Indonésie? Ouah, des beaux fruits de la passion, très bien, on va prendre des fruits de la passion indonésiens. Voilà, mais on ne s'est pas posé la question, mais en fait, pourquoi nous, on n'en fait pas chez nous, quoi.
Et maintenant, justement, est-ce qu'avec, j'allais dire, l'ère du Covid, qui a aussi fait prendre conscience aux gens de
consommer. Aujourd'hui, j'ai des bananes locales, j'ai des fruits de la passion locale, j'ai de la noix de pécan locale, j'ai tout ce que je veux en fait en local. On vient de faire notre première grève de vanille et ça risque de fonctionner. Je veux dire, le seul truc qu'on trouvera pas en local, c'est le café et le chocolat. Mais si on le trouve ce jour en local, ça veut dire qu'on n'aura plus grand chose à côté. Donc, je veux dire, et on peut s'en passer largement. Donc, il faut. Et bien que, j'ai entendu là, je suis en contact avec, en Lozère, avec des gens qui font du chocolat. En Lozère, mais je ne sais pas si c'est avec de la fève de cacao d'importation ou pas. Je ne sais pas, il faut que je creuse un peu le sujet. En ce moment, je n'ai pas vraiment le temps. Tout ça pour dire que oui, bien sûr qu'on peut, tout faire avec la certitude de faire en local. Le seul truc qui mérite un peu, c'est que Nous, on va faire beaucoup d'efforts là-dessus. Et les grandes surfaces, pas. Alors, je les connais, les excuses. Ouais, mais en local, il n'y a pas suffisamment de production pour arriver à... Si, en fait, il y a suffisamment de production. C'est juste qu'on peut moins négocier les prix parce que bah, c'est français. C'est juste aussi parce qu'à un moment donné, de remplir des rayons au cas où, bah, c'est plus possible, en fait. Hein, parce que le au cas où, bah, c'est en fait, c'est 55 ou 70% des déchets, entre 55 pardon, et 70% de déchets. C'est-à-dire qu'en gros, c'est dans les rayons, c'est pas vendu, ça part à la benne. Et une partie au secours catholique. Mais ça encore, j'y crois qu'à moitié. Donc... voilà, je veux dire, c'est soit une volonté générale de se dire, écoutez, il va falloir à un moment donné se raisonner sur la façon de consommer, parce que bah, nous, finalement, on représente une gouttelette d'eau, quoi, mais c'est pas ça qui va faire changer le débat actuel sur l'alimentation, en tout cas. Mais bon, on se regarde bien dans la glace en disant, ben bah, voilà, on est droit dans nos bottes. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait bien, quoi. C'est le principal.
Peut-être avant de conclure, Lionel Giraud, en parlant de changement, bon, des grandes surfaces bon, qui ne changent pas, les restaurants, il y a quand même une prise de conscience. Est-ce que maintenant, la deuxième étoile que vous avez obtenue en 2020, ça a changé quelque chose, à part la partie, on va dire, communication, etc. Est-ce que ça a réellement changé quelque chose pour vous ou pas?
Alors, il y a plusieurs points. Sur le plan humain, pas vraiment. Sur le plan chef de cuisine, effectivement, oui, parce que le regard est différent. Et ça m'amène une forme de légitimité sur mes choix et ma façon de penser la cuisine. En tant que chef d'entreprise, oui, ça a amené une clientèle internationale et donc m'a permis de développer, en tout cas de me développer d'une façon différente, plus sereine, avec moins d'angoisse de trésorerie, on va dire. Voilà. Après, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que j'ai un peu plus de problèmes et un peu plus de pression. Voilà.
Bah, j'allais dire.
Mais je ne suis pas sûr que ça soit juste lié à la deuxième étoile. Je pense que c'est plutôt à l'agrandissement de la maison.
Aussi, oui, parce que voilà, c'est devenu la maison Saint-Crescent avec bon, la cave à vin plus
c'est
le
ça,
restaurant.
Exactement. Ouais. Donc forcément, bah, plus de collaborateurs, donc forcément plus de problématiques quotidiennes.
Donc deuxième étoile en tant que telle, bon, ça n'a pas fondamentalement changé les choses.
Ça flatte l'ego, ça nous, on va dire que ça nous légitimise nos convictions et ça nous donne allez, un élan supplémentaire. Mais c'est pas pour ça qu'on nous attend pas au tournant, quoi qu'il arrive.
Mais on le voit même avec ce qui s'est passé tout récemment, avec des trois étoiles
bien sûr.
Qui ont perdu leur troisième étoile, sans avertissement, sans rien comme ça, boum.
Disons que, alors, quand on rentre en compétition, c'est le jeu. Vous savez tout ce que c'est, hein. On est une ville de rugby, quand Narbonne elle rentre sur le terrain, on ne sait pas si elle va gagner ou si elle va perdre. Bon, bah, la seule différence, c'est que nous, des matchs, c'est deux fois par jour, et c'est 10 matchs par semaine, et non un. Et ensuite, chaque client va nous juger. Donc c'était comme si les 10 000 spectateurs du Racing avaient tous un jugement différent sur le club. Des fois, c'est pesant en fin de journée. Voilà, parce que en plus de surcroît, ça rayonne sur les réseaux, et des fois, ça peut être destructeur. Donc ça, c'est déjà la base. Donc c'est-à-dire qu'on doit pratiquer un sport de haut niveau, être tout le temps gagnant. Parce que là, on n'a pas le droit de perdre, hein, parce que sinon, si le jour, quand nous, on perd quelque chose, c'est-à-dire le client, hein, là, pour le coup, on nous tombe dessus comme si on était les derniers...
L'erreur n'est pas possible.
Les derniers mécrans. Donc voilà, l'erreur n'est pas possible, de perdre le match, ce n'est pas possible, et il faut être tout le temps au top. Parce que la visite d'un client, malheureusement, elle vient le 6 avril, et le client du 8, il faut que ça soit aussi beau, aussi bon que le client du 6, le client du 8. Et ça, toute l'année, voilà. Et presque, je dirais même toute sa vie, parce que des fois, j'ai des gens qui... Je vais vous donner une anecdote. À midi, j'ai une dame qui vient faire un bon cadeau à la réception. Dieu merci, elle tombe sur ma femme, mais pas une collaboratrice qui a 6 mois de maison. Et qui dit, ça a bien changé, j'étais venu il y a 15 ans. Très bien, madame. Au fond de moi-même, je me dis, si j'ai un client tous les 15 ans, je pense qu'on serait plus là, heureusement, que tout le monde n'est pas comme vous. Et je ne m'étais pas régalé. Alors du coup, je vais faire un bon cadeau pour mon mari, comme ça il vient, et s'il se régale, je reviendrai. Et là, ma femme lui répond, mais madame, vous savez, en 15 ans, en fait, tout change, tout évolue. Vous imaginez même pas. Vous savez, d'une semaine à l'autre, le chef, déjà, il change ses plats. Il revoit la copie. Il se remet en question à chaque service. Donc en fait, vous avez été une fois déçu, et vous nous le faites payer pendant 15 ans. Vous imaginez à quel point on n'a pas le droit de se louper ? Vous voyez ? C'est comme si, moi, le Racing, les supporters du Racing, ils arrêtent d'aller voir le club pendant 15 ans parce qu'ils ont perdu le match. Nous, c'est un peu ça. Donc, on est dans une situation où parfois, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Alors après, Encore une fois, je dis pas ça pour me faire plaindre. On fait ce métier parce qu'on aime les gens, on a envie de donner du plaisir et de leur faire plaisir. Et qu'à chaque fois qu'on loupe cette opération-là, c'est vécu comme un échec. Hein. Il ne faut pas croire qu'on s'en lave les mains, bien au contraire. Mais c'est la disproportion que ça prend. Vous savez, j'ai beaucoup de confrères avec qui des fois j'échange et qui sont au bout du rouleau, quoi. On est dans une ère là où j'ai énormément de chefs d'entreprise dans le métier de la restauration que je connais, qui sont usés, qui sont fatigués psychologiquement. Depuis 2019, depuis les Gilets jaunes, on n'arrête pas d'en prendre plein la gueule. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et cette espèce de marasme, vous savez, moi le mardi, là où il y avait les grévistes, très bien, je peux soutenir la cause, il n'y a aucun problème là-dessus, je dérive sûrement un peu, mais vous allez comprendre pourquoi. On m'a coupé l'électricité à 11h30, on me l'a restauré à 17h. J'ai perdu mon service du midi, j'ai été obligé de rappeler tous mes clients pour leur annuler leur table, qui arrivait de surcroît, parfois de loin, parfois de près, ce qui est plus facile. Ça, c'était pour le gastro, mais j'ai fait aussi pareil pour annuler les 70 couverts qui est au bistrot. Alors, je veux bien contribuer. Hein. Vous savez, moi, en tant que dirigeant, je cotise tous les mois. Je vois partir de ma fiche de paye une aide pour les syndicats. OK. Alors, moi, je veux bien. Mais là, sur le coup, j'ai participé et de force. J'ai perdu de l'exploitation. Personne ne me rembourse. Et j'ai perdu peut-être 6000 euros ce jour-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai personne derrière, les assurances ne nous couvrent pas, EDF ne nous répondent pas, ils s'en foutent. Et le responsable CGTIS qui a coupé, eh ben, on ne sait pas qui c'est. Donc du coup, ben, voilà, on a perdu cette journée-là. Et pour nous, c'est lourd de conséquences. Parce qu'une journée perdue, c'est une journée qu'on récupère. Alors on va dire, oui, mais c'est pour nous, c'est pour les retraites. Alors là aussi, je vais faire un petit laïus. Hein. Moi, je suis indépendant. La retraite chez les indépendants, c'est entre 67 et 70 ans. Voilà, donc de me faire passer à 64, et même comme je suis carrière longue, parce que j'ai commencé à 15 ans, ça sera 62. Donc moi, en fait, cette réforme, elle me fait gagner 5 ans. Et je pense que pour beaucoup de gens indépendants, travailleurs indépendants, bah c'est aussi un peu le cas. Donc voilà. Et je pars du principe que de prendre les gens qui travaillent en otage, c'est pas la meilleure solution. Quand on a des choses à dire, on va voir les responsables. Donc c'est-à-dire qu'on va devant les ministères, on va devant l'Élysée, on va devant les représentants, que ce soit mairie et ainsi de suite, pour faire entendre ses droits. Mais on ne prend pas en otage les gens qui travaillent. J'ai fait ma petite aparté, excusez-moi, c'est juste parce que c'est dans les tuyaux. Et que donc ce marasme global fait que finalement les gens, quand ils arrivent au restaurant, sont peut-être moins ouverts et attentifs à passer un bon moment, parce que leur vie est compliquée, et que donc ils nous le font savoir. Et comme nous sommes un peu les seuls maillons, les derniers maillons interlocuteurs qu'on peut avoir en réel dans la vie, c'est-à-dire que vous avez un problème avec un gros groupe tel qu'il soit, qui vous prend 200 balles par mois d'abonnement, vous avez un monsieur ou une madame qu'on ne sait pas de quel pays il est et qui va vous répondre « éteignez la box et rallumez-la » ou qui vont vous dire « je ne sais pas, je vous mets un rendez-vous ». Voilà. Nous, en fait, on est là, en direct, face aux clients et ils déversent un petit peu leur mal-être actuel. Et donc ça aussi, c'est dur et c'est pour ça que je voudrais en revenir qu'énormément de confrères sont dans une situation douloureuse, compliquée. Ils ont du mal à trouver, à recruter. On est tous dans le même bateau là-dessus. Et voilà. Et le pire de ça, c'est que finalement, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on nous donne pas les possibilités, les moyens de le faire. Alors moi, j'attends pas les moyens des autres. Je dis toujours, il faut toujours trouver les solutions par soi-même. Mais on peut pas demander un regroupement collectif et d'être individuel et seul devant les prises de décision importantes. Voilà. C'est soit on participe tous autour de la table et on dit, OK, c'est viable de cette façon-là et on va le faire. Mais on arrête de prendre les gens un par un et de, voilà. Excusez-moi, j'ai dérivé un peu du sujet, mais ça fait partie de mes préoccupations de chef d'entreprise et de chef de cuisine actuel. Voilà.
Alors, malgré ça, vous êtes là, vous continuez, vous allez continuer encore, rapidement.
Si demain, il y a quelqu'un qui vient me dire « mais moi, je suis chaud, j'ai envie de faire comme vous », parce que c'est toujours facile, vous savez. J'ai appris une chose, c'est que les gens qui vous jugent, c'est souvent ceux qui en font le moins que vous. Les gens qui vous critiquent, c'est ceux qui en font encore moins que vous. Mais par contre, quand je leur dis « écoutez, allez-y, prenez la place », quoi, là, il n'y a plus personne. Alors, moi, je ne sais plus trop quoi penser de ce chemin. Voilà.
Alors, imaginons, vous continuez. À quoi on s'attend? Vous continuez encore dans ce que vous faites actuellement,
honnêtement, bien sûr, le chef de cuisine qui parle aujourd'hui est bien sûr passionné et amoureux de son travail, bien évidemment. Ce qui me parasite, c'est toutes les problématiques autour dans laquelle pour la plupart des choses, on ne peut pas le maîtriser, mais on nous l'impose. Et ça, je crois que c'est le plus douloureux. Et si je viens arrêter ou abaisser les bras sur ce métier, c'est parce que j'aurais cumulé peut-être un peu trop de casquettes qu'on demande à un chef d'entreprise. Et finalement, ça m'en aurait écœuré. Alors, je ne dis pas. Peut-être que demain, en tant que... Vous savez...
Le chef cuisinier est satisfait, mais le chef d'entreprise, c'est compliqué.
Le chef cuisinier est heureux de faire son métier. En revanche... Il est désabusé de voir à quel point on n'arrive pas à transmettre à une nouvelle génération sur, on va dire, sur une culture d'entreprise et sur une notion de long terme, en disant que la cuisine, ça se fait pas une semaine, c'est un projet de 5-6 ans avant d'arriver à sortir quelque chose qui tient la route, ne serait-ce que d'aller chercher des distinctions supplémentaires ou quoi. Je veux dire, c'est un entraînement quotidien. Vous prenez pas 11 individus, vous les mettez pas dans un club et ça marche tout de suite. Hein. C'est un entraînement quotidien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On gagne pas la Champions League dès la première année, quoi. J'ai jamais vu ça. Mais voilà, je fais toujours le lien au sport parce que c'est un travail collectif. Donc le chef de cuisine est heureux avec ses asperges en ce moment, ses petits pois, parce que le produit, ça lui parle et il est content d'avoir ce que Dame Nature lui offre. Il est désabusé par l'ensemble de ce qui se trame aujourd'hui en termes de... je ne veux pas parler de générationnel parce que finalement, c'est un éternel problème. J'ai toujours entendu les anciens dire de ma génération à moi qu'on était des bons à rien et je me refuse de dire la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a un changement qui est compliqué et que j'arrive pas à comprendre dans le monde culinaire. Et ensuite, le chef d'entreprise, ouais, est abattu parce que, géopolitiquement parlant, il sait pas où il va, quoi. Je sais même pas me projeter sur une semaine plus loin, quoi. Elle me dit, ouais, chef, faut qu'on pose des vacances parce que, ah ouais, ça m'est sorti de la tête parce que je sais même pas si je vais pas déjà fermer la semaine prochaine parce qu'il va me manquer 3 ou 4 personnes. Voilà.
Bon.
On en est là.
Si on veut réserver, chef.
Mais sinon, si je peux trouver un food truck et travailler tout seul, je serai le premier heureux. Voilà.
Pourquoi pas un à côté?
Bon, non, mais pas d'un côté. Vivre de pas grand chose avec une forme d'autonomie. Moi, vous savez, si demain je trouve un petit lopin de terre avec 3 lapins, 4 carottes et un écureuil, je serai aussi heureux.
Chef, on va rappeler comment on fait si on veut, les gens souhaitent se renseigner, veulent le réserver.
On a un site de réservation en ligne traditionnel qui se fait de plus en plus, 80%, déjà parce que c'est un système qui nous fait gagner du temps, faut pas se leurrer. Et soit par téléphone au 04 68 41 37 37, soit sur la maison 5 Cresson à bien choisir la table, Lionel Giraud, et non pas cave à vin, cave à manger, parce que souvent ça aussi les gens confondent. Je pense que c'est tout.
Page Facebook, il y a aussi, on peut regarder, on peut...
Oui. Et après, pour l'actualité, voilà, Facebook, Instagram, on est présent. Voilà, et tout, hein, parce que il faut faire la pub pour tout le monde.
Parfait. Mais écoutez, chef, merci encore d'être venu nous parler.
Merci à vous. C'est toujours intéressant un peu de vider son sac, comme on dit. Et puis moi, je suis sans filtre, donc... Voilà, je pense que c'est comme ça. Je pense qu'il faut être honnête, droit, juste dans ce qu'on pense dans la vie. Et voilà, et le fait de me poser des questions à la radio sur Grande Écoute ne me dérange pas de rester moi-même. Donc voilà,
ouais,
vous m'avez à la radio comme dans les cuisines.
Parfait. Eh bien écoutez, merci encore.
Merci à vous.
Bonne continuation, puis bon prochain service. Hein. Je pense que vous allez reprendre bientôt.
À 18h.
À bientôt, au revoir, merci.
Merci.